Voici le deuxième épisode de ma série sur l'année 1968, ce qui va nous amener évidemment à exhumer les archives de mai 68. Je vais vous raconter les débuts de la contestation étudiante et la place d'Europe numéro 1 au cœur des barricades et le cinéma qui lui aussi fait son mai 68.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1968.
Avant d'aller sur les barricades, voici un épisode un peu oublié de 1968. Il date de février 68, quand le ministre de la Culture, André Malraux, décide de limoger le directeur et fondateur de la Cinémathèque française, Henri Langlois, considéré comme l'un des plus grands cinéphiles du monde. Il lui reproche de ne pas savoir gérer, de ne pas s'intéresser à la comptabilité de la Cinémathèque, bref, d'être trop artiste et pas assez gestionnaire. Et pour le remplacer, Malraux nomme un nouveau directeur à sa main, Pierre Barbin. Cette éviction rend le monde du cinéma totalement dingue, d'Orson Welles à Stanley Kubrick, en passant par Jean-Luc Godard et Claude Chabrol.
J'ai prêté à Langlois quelques-unes des copies de mes films que je vais récupérer, ou plutôt, on donnait des films à Langlois et c'est tout.
Si demain M. Barbin décide de passer un Chabrol...
Il ne le passera pas parce que je viendrai chercher la copie avant.
Vous avez l'intention de revenir aux autres séances pour protester?
Voilà, on ne peut pas empêcher les gens de voir des films parce que ça serait du fascisme comme ça s'est produit à l'époque de la religieuse, par exemple.
On n'a pas à limoger l'homme qui est une chose. Enfin, la cinémathèque, c'est Langlois. Si on supprime Langlois, on supprime la cinémathèque. C'est pas parce qu'on amène trois loustiques pour... ça ne veut rien dire. C'est des trucs de fous, ça. Vraiment, c'est des trucs de démons.
Le monde du 7e art décide de manifester devant la cinémathèque. Et même Jean-Paul Belmondo est de la partie. Et ça n'est pas dans ses habitudes.
Depuis plusieurs jours maintenant, le monde du cinéma bouge beaucoup à cause de ce qu'on appelle l'affaire Langlois. Mais est-ce que vous ne croyez pas, Jean-Paul Belmondo, que seul le monde du cinéma est concerné par cette affaire?
Je ne pense pas que c'est seul le monde du cinéma, parce qu'il y a tous les étudiants qui vont à la cinémathèque depuis des années et qui continuent à y aller. Donc ils sont concernés aussi, c'est pas uniquement le monde du cinéma, ça va plus loin.
Pour vous, Cinémathèque et Langlois, ce sont deux choses indissolubles, enfin c'est la même chose.
Ah oui, je pense, pour moi c'est indissoluble, je pense que c'est pour tout le monde. Moi quand j'étais à la Cinémathèque il y a des années, pour moi c'est Langlois qui représente ça. Et c'est grâce à lui que moi j'ai connu, je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses en allant voir tous ces vieux films. L'admiration pour les acteurs, pour moi personnellement aussi.
Est-ce que cette fréquentation de la Cinémathèque a joué un rôle sur votre carrière?
Je pense oui, parce que j'ai pu voir là des films que j'aurais pu voir nulle part ailleurs.
Pour vous, en tant que comédien, qu'est-ce que ce départ représente?
D'abord, je pense que beaucoup de gens n'iront plus à la Cinémathèque, et puis je pense finalement à tous les autres. Je veux dire, égoïstement, en tant qu'acteur, pour tous les jeunes acteurs, c'est dommage qu'il n'y ait plus Langlois.
Toutes les grandes stars du cinéma répondent à l'appel. Ils veulent sauver Langlois, garant, disent-ils, de leur liberté.
Michel Simon, on vous voit souvent dans des manifestations qui sont surtout des manifestations du cœur. Pourquoi êtes-vous venu ce soir manifester devant la Cinémathèque?
Parce que nous sommes tous révoltés de ce que l'on fait à Langlois et nous sommes solidaires de Langlois et je n'abandonnerai jamais Langlois.
Est-ce que vous pensez que votre présence peut changer quelque chose à la décision de M. Malraux?
Je ne pouvais pas ne pas venir. Et je viendrai gueuler aussi fort que je pourrai chaque fois que ça sera utile à Langlois.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse faire ce qu'il fait depuis 35 ans, de sauver le cinéma français, d'arracher les films des mains des vandales, qu'il les détruise avec une hache. Je ne sais pas si vous savez qu'on détruit les films à la hache. Et grâce à Langlois aussi, j'ai fait le tour des cinémathèques et j'ai pu revoir aussi, grâce à lui, des films dont il n'y avait plus de traces nulle part. Voilà, 35 ans de patience, d'efforts désintéressés, d'amour du cinéma, voilà à quoi ça conduit. C'est monstrueux.
Cette affaire fait la une pendant plusieurs jours et Langlois est finalement réintégré. En revanche, en mars 1968, pas grand monde ne s'intéresse à ce qui se passe à l'université de Nanterre. Là-bas, de l'autre côté du périph' parisien, les étudiants sont en grève. Ils dénoncent l'arrestation de 7 d'entre eux qui manifestaient contre la guerre au Vietnam. Et à partir du 22 mars, ils sont 500 à occuper la fac. Europe numéro 1 à le nez creux, et envoie un de ses reporters sur place, Patrice Louis, qui d'emblée repère un meneur parmi les grévistes, un rouquin de 23 ans qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit.
Étant donné que le bâtiment administratif est le centre de Nanterre et que c'est en étant dans le bâtiment administratif que nous voulons démontrer notre volonté de lutter contre la répression. Ça, c'est un point prévu.
Quelle est la nature réelle du mouvement ? La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Bon, ce refus se fait d'abord à l'université. Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire essayer de faire une jonction dans la lutte avec les ouvriers ou les paysans en lutte.
En mars 1968, cette occupation de la faculté de Nanterre est le détonateur de mai 68.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis, moi j'entends la frabarabarabara cavalerie, moi je pense à la frabarabarabara. Un jour je prendrai la route, mais aille coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage, et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie.
C'était Julien Clerc avec son titre La Cavalerie, sorti juste avant les événements de mai 68.
L'année 1968.
En mars 1968, 500 étudiants de l'Université de Nanterre occupent leur fac. 5 semaines plus tard, le 2 mai 68, le gouvernement prend la décision de fermer la faculté de Nanterre, en espérant que ça suffira à éteindre le mouvement. Personne ne mesure la colère qui couve. Le ministre de l'Éducation nationale, Alain Perfitte, va même jusqu'à organiser une conférence de presse pour évoquer la rentrée prochaine. Europe numéro 1 y envoie un reporter, Gilles Schneider. Mais sur le chemin du ministère, il est détourné par son rédacteur en chef.
Gilles, t'oublies le ministre, hein ? Tu fais une urgence au quartier latin. Il y a une rallonge là-bas. Les gamins de Nanterre sont partis à rendre ceux de la Sorbonne.
Quand il arrive sur place, à la Sorbonne, le reporter d'Europe numéro 1 voit la police embarquer les étudiants de Nanterre. Et toujours parmi eux, le jeune Cohn-Bendit.
Les étudiants témoins de cette arrestation, de ces arrestations, ont aussitôt attaqué les cars de police qui emmenaient leurs camarades. Au début de la manifestation, il y avait là des jeunes gens casqués, portant une veste de battle dress, armée de pierres et de gourdins. Des jeunes gens qui étaient venus là pour en découdre avec la police. Mais justement, il semble que l'intervention de la police ait eu pour effet d'unir les étudiants de tous bords, tous les étudiants et bientôt d'autres garçons et filles témoins de ces bagarres ont rejoint leurs camarades. Si bien que tout d'un coup, les extrémistes se sont retrouvés en minorité et que ce sont les étudiants d'habitude calmes qui ont réagi. Je crois que c'est important à noter. Il faut dire que certaines scènes, comme celle du matraquage d'un garçon de 17 ans sur le toit de notre voiture où il s'était réfugié, n'étaient peut-être pas la meilleure façon de calmer les esprits.
Le face-à-face entre étudiants et policiers est extrêmement violent.
Au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, il y avait des infirmiers de la Croix-Rouge. Les manifestations, ils connaissent ça. L'un d'eux m'a dit hier soir, « Cela fait longtemps que je n'ai pas vu autant de violence. » Du côté policier comme du côté étudiant, on s'est battu avec hargne. Les étudiants ont même parfois chargé. La tactique était la suivante, se poster sur la chaussée de telle manière que des embouteillages se produisent, se servir des voitures comme barrage. J'ai même cru un moment que l'on frisait l'émeute. Les étudiants, pendant une demi-heure, avaient dressé une véritable barricade construite avec des pavés, des grilles qui protègent les arbres et des poteaux de signalisation. Quelques voitures en stationnement étaient placées en travers de la rue. Avec des pioches, les étudiants défonçaient le bitume. Boulevard Saint-Michel, il y a des travaux. Des brouettes, des tringles de fer, des tables de café ont servi aussi à construire la barricade. Jusque-là, des échauffourées sévères opposaient les jeunes gens aux gendarmes mobiles. J'ai vu par exemple allongée sur un banc une jeune fille le visage blême qui avait reçu un coup sur la tête. Un médecin se trouvait près d'elle pour la ranimer. Il demandait que quelqu'un téléphone pour appeler une ambulance, mais tous les cafés avaient fermé leurs grilles.
Les policiers reçoivent des bouteilles et des pavés et comptent eux aussi. Blessé.
Un brigadier a reçu à ce moment-là une pierre sur la tête. Il a eu le crâne fracturé. Ça n'était plus de la bagarre, mais un véritable déchaînement de haine. Alors, violemment, les policiers ont réagi. Plusieurs coups de matraque, il faut bien le dire, sont tombés un peu n'importe où. Et j'ai vu plusieurs personnes qui rentraient chez elles se tenir la tête entre les mains. Certains ou certaines n'avaient plus l'âge de fréquenter l'université. Pendant 5 heures, nous avons eu les yeux rouges. Les grenades lacrymogènes ont explosé par dizaines. Les étudiants répliquaient avec des sortes de cocktails Molotov qu'ils lançaient dans les pieds des forces de l'ordre.
Ce jour-là, l'arrivée de la pluie finit par calmer les esprits. Mais 3 jours plus tard, rebelote, 20 000 étudiants défilent dans les rues du quartier latin.
Nous sommes pour le socialisme, nous sommes les rébus, continuons-le, on va.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang.
Reculez ! Les étudiants chargent !
Il y a les policiers, ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de trois avec leurs boucliers.
Ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lançant de l'eau, des lances de pompiers, et les manifestants ne reculent pas.
Au cœur du mouvement, Europe numéro 1 recueille le témoignage d'un garçon de café qui était sur le trajet de la manifestation.
On était tous en train de regarder ce qui se passait dans la rue. D'un seul coup, les manifestants ils sont arrivés en trombe, ils voulaient tous rentrer à la fois. Le patron et nous, on s'est mis derrière les portes pour ne pas les laisser rentrer. Mais ils ont cassé les portes, ils sont rentrés quand même. Alors les flics, quoi, ils sont rentrés à l'intérieur après. Ils ont foutu des bombes lacrymogènes dedans. Et après, tout le monde, dans la folle amont, tout le monde voulait sortir, mais les portes étaient fermées, alors ils sont sortis pour les vitres, quoi, pour la porte, ils sont tout massacrés, tout cassés. Je crois que tout ça a commencé le pire parce que les gardes, là, les RSS, ou comment ça s'appelle ça, on ne sait rien, alors ils ont lancé les bombes à l'intérieur de du café. Alors, mais c'est à cause des 2 ou 3 qui ont voulu forcer la porte. Les gardes, ils sont rentrés à l'intérieur, ils sont tout cassés, ils ont jeté 3 grenades à l'intérieur, dont une a tapé à moi dans la godasse, j'ai sauté derrière le comptoir là. Un collègue à moi, il est blessé gravement. Parce que voilà, mon collègue, il avait pas la veste blanche, il était en chemise. Parce qu'il voulait ouvrir la porte pour laisser sortir les clients. Et alors il y en a un garde qui l'a matraqué là. Il était en train d'ouvrir la porte, il lui disait « Ouvre la porte et fais tout sortir ». Il lui a dit à mon patron. Alors mon patron il a dit « Comment est-ce que vous voulez qu'il sorte si vous êtes en train de le matraquer à tous ?»
Au lendemain de cette manif, Europe numéro 1 tente à nouveau son micro au jeune Cohn-Bendit.
nous aurons publié des films et des photographies prouvant que les policiers ont systématiquement agressé des badauds qui n'étaient visiblement pas, par leur âge, des étudiants, qui ont systématiquement agressé des filles, et on pourra voir vraiment ce que c'est quand ce qu'on dit CRS-SS, ce n'est pas du tout une litote, et même je crois que c'est réellement ce qui s'est passé. On a assisté, et nous avons les preuves cinématographiques de cela, à une véritable entreprise de massacre.
Il y a un film où les policiers sortent de la d'une voiture, un homme le frappe, la femme sort et crie « Ne le frappez pas à la tête, il vient d'être opéré ». Là-dessus, les policiers redoublent leurs coups sur la tête. La femme complètement affolée crie, puis il y avait un gosse qui sort, les policiers frappent le gosse. Hein, et ça, ils ne pourront dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucune excuse. Un gosse de 14 ans, c'est visiblement pas un manifestant.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette.
C'était la bicyclette d'Yves Montand en mai 1968. C'est l'une des chansons les plus diffusées à la radio.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1968.
Le 10 mai 1968, ça fait 4 jours que les premiers pavés ont été lancés à Saint-Germain-des-Prés. Une nouvelle journée de manifestation débute. Lycéens et étudiants parisiens se sont donné rendez-vous vers 17h. Ils sont 4000. Et bien encadrés par la police, au début, aucun incident. Mais à 21h, des barricades se forment. Et c'est encore Cohn-Bendit qui explique l'art de construire des barricades.
Ce sont aux manifestants eux-mêmes de s'auto-organiser, c'est-à-dire de voir comment faire les barricades. Seulement le conseil que nous pouvons vous donner, c'est de ne pas faire les barricades n'importe où, mais de les faire à des points stratégiques qui vous permettent justement de vous défendre quand vous faites vos comités de discussion politique. De la faire de telle manière que vous soyez à distance respectable de la police. Ne la faire pas n'importe où. Voyez les positions stratégiques et après faites vos barricades. Allez occuper les quartiers latins.
Allô, Jacques Paris ?
Fernand Choiseul, allez-y.
Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été posées avec du bois. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade. De l'autre barricade. Et maintenant, les barricades sont en feu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Fernand Choiseul.
À partir de ce moment-là, Europe numéro 1 consacre 100% de son antenne aux événements du quartier latin.
Eh bien, écoutez, la position n'a pas changé depuis tout à l'heure. Les policiers, en ce moment, sont en train de franchir une barricade, c'est-à-dire une barricade qui était construite uniquement en pavé. Et ils avancent, ils progressent en continuant à lancer des grenades. En ce moment, vous entendez peut-être le bruit.
Schneider, une petite seconde, on va essayer de situer les positions. Tout à l'heure, Jacques Petit, qui revenait des lieux, nous expliquait qu'en quelque sorte, c'était une nasse. 50 barricades qui cernaient pratiquement un secteur relativement restreint de ce quartier latin. Alors vous me dites que les CRS sur différents axes avancent d'une cinquantaine de mètres. Mais j'imagine que si les étudiants sont toujours aussi nombreux, ils vont être rassemblés, serrés les uns contre les autres dans les rues qui restent. Qu'est-ce qui se passe? Tentez de nous expliquer la situation.
Eh bien écoutez, je vais essayer de vous l'expliquer dans... que je peux. Pour l'instant, il semble, à mon avis, que les forces de police essayent de dégager la rue Gay-Lussac, qui, à mon avis, est l'îlot de résistance le plus dur de la part des étudiants.
Grâce à Europe numéro 1, les Français suivent en direct cette nuit de barricade. Et les policiers, et le gouvernement aussi.
Fernand Choisel.
C'est vraiment les yeux qui me piquent. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion. Là, je pense, une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade, tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer. Nous-mêmes, nous sommes obligés de reculer maintenant.
En mai 68, pas d'Internet, bien sûr, pas non plus de téléphone portable, les manifestants s'informent via Europe numéro 1. Et c'est ainsi que Daniel Cohn-Bendit, encore lui, lance un appel sur l'antenne. Il demande à ses camarades de reculer. Il craint des combats meurtriers avec la police.
Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade.
Oui.
La police envoie en ce moment des grenades avec du chlore et tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en ce moment, de deux choses l'une, les manifestants ne pouvant se retirer, ou c'est le massacre, il sera pire qu'à Charonne, où la police arrête.
Et quelques instants plus tard, Daniel Cohn-Bendit réitère son appel au calme sur Europe numéro 1.
Vu la cruauté de la police, il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. Le pouvoir a essayé de frapper durement le mouvement étudiant, n'a pas dispersé une manifestation, mais l'a durement, violemment attaqué, qu'en se croyant en guerre civile. J'appelle donc tous les syndicats, tous les partis de gauche faisant partie de l'opposition, de se mettre en grève générale à partir de la journée de lundi pour justement montrer leur solidarité avec les étudiants et les jeunes travailleurs.
À 5h20 du matin, la police reprend le contrôle du quartier latin. Après une nuit au cœur de la bataille, Europe numéro 1 écope du surnom de Radio Barricade. Cela dit, soyons honnêtes, la couverture des événements par la station est critiquée tant par les étudiants que par le pouvoir. Ce qui, le 14 mai, amène le directeur général d'Europe numéro 1, Maurice Siegel, à faire une mise au point.
Je voudrais vous dire ceci, c'est que l'objectivité est une chose difficile. Nous savons et nous avons lu toutes les attaques d'Europe numéro 1 et l'objet actuellement de la part des étudiants. Mais il faut bien vous dire que d'autres gens nous critiquent aussi. C'est-à-dire que les critiques des étudiants sont contrebalancées par d'autres critiques qui sont faites par ceux qui ne soutiennent pas les mouvements étudiants. Ce que je veux dire, c'est que la radio qui se trouve dans la rue est un appareil qui est difficile à manier, parce que c'est un appareil qui travaille en gros plan. C'est-à-dire que les mots d'ordre qui sont tout d'un coup diffusés à travers un micro peuvent être un appel au meurtre et à l'émeute. Et c'est la raison pour laquelle cette information, nous tenons de la manier avec prudence, en sachant très bien ce que nous faisons. Il est difficile pour un reporter qui se trouve dans la rue de donner immédiatement, sur le champ, ce qu'il voit, ce qui se passe, parce que ça peut être un nouvel appel à l'émeute. Et l'émeute, ça peut amener des morts et du sang. Nous avons fait un travail d'informateur dont nous sommes fiers, je vous le dis et le répète. Nous ne prenons pas le micro pour y déverser n'importe quoi. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des gens sensés, des professionnels, des gens majeurs qui doivent savoir ce qu'ils disent quand ils prennent un instrument aussi difficile à manier que le micro. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons de faire.
Et donc, Europe numéro 1 continue de couvrir l'événement en direct. L'un de nos reporters vient de dégoter un personnage qui semble sortir tout droit d'une scène de cinéma. Un pianiste qui est en train de jouer dans la cour saccagée de la Sorbonne.
Pour qui jouez-vous normalement de la musique ?
Pour Bobby Lapointe.
Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe.
C'est ça, ouais.
Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne?
Bah, je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs.
Vous avez fait des études, vous?
Oh, j'ai raté mon certificat d'études.
Ça doit être étonnant quand même de jouer comme ça, hein, à la Sorbonne.
Oui, j'avoue. C'est même assez difficile de discuter de jouer, mais enfin.
Et vous serez là tous les jours si les étudiants le demandent?
Peut-être, oui. Pourquoi pas? Sans convient de coopérer.
Mi-mai 1968, après les étudiants, le monde ouvrier se met en grève générale. Une grève illimitée qui touche aussi le monde du cinéma. Le tournage de nombreux films est interrompu. Par exemple, celui du Cerveau, de Gérard Houry avec Belmondo et Bourville. Le syndicat des acteurs appelle lui aussi à la grève générale. Mais certains refusent. Comme Alain Delon.
Nous, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Jacques Dacmine, Raymond Jérôme, refusons le mot d'ordre de grève illimité lancé par le syndicat français des acteurs hier lundi 20 mai, sans notre consultation et encore moins notre accord. En conséquence, nous décidons de former une union professionnelle pour sauvegarder les libertés professionnelles du spectacle. Nous faisons appel à tout acteur pour se joindre à nous afin de mettre sur pied une action dégagée de politique. Nous sommes persuadés que la grève illimitée du spectacle ne servira en rien les intérêts professionnels des manifestants, les activités du spectacle n'étant pas vitales à la vie de la nation. Nous proposons une reprise totale des spectacles, nos cachets, dans les conditions actuelles, devant servir à alimenter un fonds d'aide aux familles des travailleurs en grève.
Et à Cannes, on se pose la question de savoir si le festival doit avoir lieu ou pas.
25 films en 15 jours, représentant 13 pays. Mais il se passe tant de choses dans le monde que l'on se pose la question, a-t-on le droit aujourd'hui à Cannes de s'occuper exclusivement et passionnément de pellicules, plans-séquences, flashbacks, travelling, coproductions et bel effet aux 500? La réponse est oui, puisque le cinéma d'aujourd'hui témoigne de la vie d'aujourd'hui.
Mais les réalisateurs sont partagés. Certains veulent à tout prix que leur film soit diffusé. Et d'autres pensent que ne pas annuler le festival tient de la provocation.
Qui donc a dit qu'il ne se passait jamais rien au Festival de Cannes? Aujourd'hui, il s'est passé des choses et on parle du festival. Le malheur est que pour faire arriver à faire parler de lui, le festival soit obligé de se saborder. On arrive donc à parler de quelque chose qui n'existe plus. On s'est battu sur la scène du Palais, on s'est battu entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre la poursuite des manifestations et des projections. Les pour, c'est-à-dire les dirigeants du festival, ceux qui en font commerce, les producteurs, les impresarios et autres intermédiaires, disaient « D'accord, pour arrêter les mondanités, lunch, dîner, fiesta et autres surprises parties, c'est un peu déplacé compte tenu de la conjoncture, mais enfin, continuons le festival lui-même, autrement dit, les projections et la compétition. » Pas du tout, disaient les contres, c'est-à-dire ceux qui font effectivement le cinéma, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, il faut tout arrêter, et les projections et la compétition. C'est indécent de continuer. De plus, il faut profiter de ce mouvement général pour rendre au cinéma sa liberté.
La grande salle du Festival de Cannes finit par ressembler à une assemblée générale d'étudiants de Nanterre. Elle est occupée par plusieurs centaines de professionnels du cinéma. Les discussions sont houleuses. Elles virent à l'engueulade. Et parmi les cinéastes qui ne veulent pas arrêter le festival, Roman Polanski.
Vous voulez arrêter le festival, arrêtez le festival. Mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'arrête? Déjà, très peu de gens sauront en France que le festival était arrêté parce que les gens s'en foutent du festival.
Polanski ne veut pas qu'on arrête le festival. En revanche, François Truffaut ne veut pas qu'il continue.
La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le Festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule.
La vérité, c'est que François Truffaut n'a pas de film en compétition. Il n'est venu à Cannes que pour demander l'arrêt du festival.
Ce que je crois quand même, c'est que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le festival de Cannes est arrêté. Absolument. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise. Parce que vu de l'extérieur, le festival de Cannes, c'est quand même... Vous savez ce que c'est, voilà. C'est la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça, ça s'est arrêté.
Ça, c'est
alors,
vrai.
La oui, forme oui. est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment.
Le cinéaste Jean-Luc Godard, lui aussi, est à Cannes. Et lui non plus n'a pas de film en compétition. Il n'est venu que pour demander l'annulation du festival.
Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible, et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France.
Je souhaite que le festival s'arrête.
Oui, mais... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas bon.
Finalement, la direction du festival maintient la projection du premier film en compétition. Godard et Truffaut vont jusqu'à s'accrocher au rideau pour empêcher sa diffusion.
Robert Favre-Lebré, le patron du festival, a essayé d'avoir les opposants au forcing en faisant éteindre dans la salle et en faisant commencer la projection du film espagnol, mais les manifestants ont coupé le son et ils se sont agrippés au rideau qui de ce fait n'a pas pu se lever. On projetait donc un film sur un rideau gris agité de soubresauts, autant dire qu'on n'y voyait rien, on n'entendait rien non plus. Dans la salle, les Cannois désœuvrés du samedi qui avaient l'occasion unique d'aller au cinéma gratuitement car l'entrée de ce happening était libre, les Cannois criaient « projection, projection », le chahut reprenait.
Finalement, la projection n'aura pas lieu et le festival de Cannes 68 non plus.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1968.
En mai 68, alors que la France s'embrase, le haut du hit-parade consacre un Johnny Hallyday de circonstance. À tout casser.
Il est à tout casser. À tout casser. Waouh. En amour, je ne fais pas de roman. Comme je suis, on me laisse.
Ce titre devient l'hymne du chanteur au début de ses tours de chant. Au même moment, son grand ami Eddie Mitchell est bien loin de l'ambiance du boulevard Saint-Michel. Lui, cela joue tombeur avec « Je n'aime que toi ».
Je n'aime que toi, chanter paraît facile. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi, les chansons ne disent que ça. Je n'aime que toi, un poète l'écrirait bien mieux que moi.
Toujours en mai 68, un titre inonde le monde. Et lui aussi se prête bien plus aux amourettes qu'aux lancers de pavés. Il est signé Otis Redding, chanteur disparu 6 mois plus tôt dans un accident d'avion.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away. Ooh, I'm
just sitting on the dock of the bay, wasting time.
Et à la deuxième place du hit parade français de mai 68, un français qui ne cesse de grimper depuis 2 ans, Jacques Dutronc, 25 ans à peine.
Nous retrouvons maintenant une personnalité que nous n'avons pas vue depuis longtemps dans l'émission, c'est Jacques Dutronc. Bonsoir Monsieur Dutronc.
Bonsoir Monsieur Dutronc.
Comment ça va Jacques?
Moi ça va, mais enfin...
Vous n'étiez pas venu depuis longtemps, il y a du nouveau depuis?
Oui, on a gagné samedi, j'en suis très content.
Oui, on a gagné samedi à Cardi. Vous vous intéressez au rugby, Jacques?
Ça se voit, non?
Ce qu'il y a de nouveau, surtout, c'est une nouvelle chanson qui est déjà un très gros succès, une chanson de Jacques Lanzmann. Ouais. C'est vous qui avez fait la musique?
Ouais, ouais.
Ça s'appelle comment?
Je crois que c'est Il est 5h, Paris s'éveille.
Merci, Jacques.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
C'était bien sûr Il est 5h, Paris s'éveille, du dandy aux yeux bleus Jacques Dutronc. En mai 1968, ce titre est repris comme un hymne par les étudiants sur les barricades. Mais le titre numéro 1 à cette époque est l'œuvre d'un chanteur irlandais, David McWilliams, avec Days of Pearly Spencer.
A dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shine.
C'est avec cet extrait de Days of Pearly Spencer de David McWilliams que nous allons quitter ce deuxième épisode consacré à l'année 68. Sachez d'ailleurs que ce titre est boycotté à l'époque par la BBC, la radio publique britannique, au prétexte qu'il a été produit par des proches d'une radio pirate. Pierre-Yves Falson signe la réalisation de cet épisode. Sincère salutation à Sylvaine Denis, à la documentation d'Europe 1. On de la Traconte vous offre la suite de notre voyage au cœur de l'année 68 dans le troisième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.